Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, oublions pour quelque temps la tournure périlleuse que menace de prendre l'histoire de la Nouvelle-France. Rarement, sans doute, plus petit peuple s'est vu chargé d'une plus lourde tâche. Et la métropole lui a pas trop manqué. Mais lui-même, pour faire tête à sa vie, à son avenir, qu'a-t-il fait? Quelle vigueur interne s'est-il donné? Quels accomplissements peut-on mettre à son crédit? Ouvrons quelques chapitres d'histoire qui vont nous opposer de ceux que nous venons d'entendre. Rappelons-nous la donnée cruciale en l'histoire de la Nouvelle-France, donnée qu'on ne saurait trop souligner, trop à faire par trop peu d'hommes. Que devient, après 1713, la population de la Nouvelle-France, ou plus exactement du Canada? Les recensements dits officiels nous indiqueraient trois étapes en particulier du mouvement démographique. Année 1720, 24 951 âmes. Année 1739, 42 701. Année 1754, 55 209. C'était beaucoup et c'était peu. C'était beaucoup puisque en 34 ans, la population s'était plus que doublée. C'était peu comparativement aux ascensions prodigieuses des voisins, en regard même de la natalité coutumière des Canadiens. Cet écart persistant entre l'homme et sa tâche, où en chercher l'explication? Pendant le règne de Louis XV, il est certain, selon M. Gaxot, que la population française ne cessa de s'accroître. De 1700 à 1789, elle serait passée de 18 ou 19 millions à 25 millions en 1789, ce qui veut dire la population la plus forte de l'Europe. Pendant toute cette période, un autre fait certain, le Canada ne connaîtra à aucun moment la moindre immigration à dose massive. Il en sera comme de l'assistance financière, système du rationnement, régime du compte-gouttes. Le Français de ce temps-là immigre peu et pour d'assez valables raisons. Ni par son climat, ni par son niveau de vie, le Canada n'attire fortement le sujet du royaume étant soit peu et aisé. En général, l'immigrant est pauvre, un indigent. Loin des ports, il faut organiser son déplacement. Or, en France, l'immigration n'est ni stimulée ni subventionnée, comme elle l'est en d'autres parties de l'Europe, pour le compte des colonies anglo-américaines. En outre, la navigation océanique s'est peu améliorée. Traverser l'océan reste toujours une aventure hasardeuse. Le plus grave, il faut y revenir. Ce pourrait bien être que les autorités de Versailles considèrent par trop les colonies comme des annexes plus ou moins étrangères à la métropole. Elles ne perçoivent pas l'immigration vers les dépendances d'outre-mer comme un simple déplacement de population à l'intérieur du domaine français. Les ministres n'ont cessé de leur dire « Le petit troupier qu'on embarque pour le Canada est un homme perdu pour l'État. » Quelle source reste donc au peuplement colonial? En revenir au transport d'engagés, dont il a déjà été question. Le malheur veut que, par toutes sortes de prétextes, les capitaines de navire éludent les ordonnances, alors que dans les ports, les commissaires négligent d'y tenir la main. D'ailleurs, les capitaines peuvent s'en tirer par une amende qui leur coûte moins cher qu'une levée de dents. Au peuplement par engagé pouvait s'ajouter le peuplement par soldat réformé. Le système consistait à licencier le soldat marié qui consentait à prendre terre. Dès 1704, Louis XIV parut se prêter à ce procédé de peuplement. Mais dès cette époque aussi, Ruette d'Auteuil observe que le licenciement des soldats a peu donné. Et il en donne pour raison qu'on fait trop de difficultés à leur mariage. L'obstacle principal, encore cette fois, il faut le chercher beaucoup plus haut et nulle part ailleurs qu'à Versailles. Le soldat mis en congé doit être remplacé la nuit suivante par une nouvelle recrue. Les autorités métropolitaines n'entendent pas qu'on dégarnisse trop facilement les compagnies. Vaudreuil et surtout Brunois auront à se défendre continuellement contre le reproche d'une excessive libéralité. Le roi en viendra à souhaiter non seulement qu'on puisse diminuer chaque année l'envoi de recrues, mais qu'on arrive même à supprimer ces envois coûteux, tant et si bien que de 1713 à 1755, à peine bon an mal an, une trentaine de soldats mariés parviennent à s'établir. Une autre source va donner davantage, au moins pendant quelques années. Dans la colonie, vers 1716, les plaintes s'élèvent de plus en plus fortes contre la pénurie de la main-d'œuvre qui fait échec à toute entreprise. Les uns prônent une importation de main noire. Vaudreuil et Bégon, favorables d'abord à une immigration de soldats dans l'espoir de les réformer, se prononcent à la fin pour des faux-sonniers. Les autorités métropolitaines se rendent après quelques hésitations. Il se trouve que vers 1720, la France entreprend de vider autant qu'elle peut ses prisons. Des prisonniers, elle en a expédié aux îles du Vent. Elle en dirige en 1722 vers Saint-Domingue, Cayenne, l'île royale, le Canada. Transportés par le vaisseau du roi et par les navires marchands, faux-sonniers et braconniers prennent donc le chemin de la colonie comme ils prennent la route de l'île royale et des Antilles. Il en arrive 130 en 1723. Le nombre descend 17 en 1743. Il faut le dire, nulle immigration ne sera plus populaire. Une arrivée de déchets en 1736, puis la disette et le manque de vivres refroidissent un an ou deux l'empressement de la population. Mais en 1731, Boisnois et Hocquart se sont offerts à placer d'un seul coup dans la colonie 400 faux-sonniers. Les arrivants ont le choix de s'engager dans les troupes ou chez l'habitant. La plupart vont chez l'habitant. L'envoi sera réglé sur la demande, avait dit Maurepas. L'envoi finit en 1749. De cette source, il serait venu environ un millier d'âmes. Un certain nombre de ces faux-sonniers ont d'ailleurs obtenu de l'agrément et avec l'aide des autorités ou d'amener avec eux leur famille ou la faire venir dans la suite. Faisons mention d'une dernière catégorie d'immigrants. Ceux qu'on a appelés les filles de famille, expédiés par lettre de cachet. Un moment, aux environs de 1720, la Louisiane put craindre d'être littéralement inondée de cette sorte de marchandises. Une véritable manie sévit en France. Des familles nobles, bourgeoises, et même des familles de petites gens, pour se débarrasser de membres gêneurs, libertins précoces, scandaleux, maris débauchés, n'estiment rien de mieux que de les faire déporter aux colonies. Le Canada reçut sa petite part de ses filles de famille, jeunes gens dérangés ou simplement difficiles, envoyés ici pour leur faire voir du pays, les corriger si possible à l'école de la misère. Et voilà close les catégories des immigrants. Si l'on tient compte de quelques nègres, de quelques esclaves panis, de quelques Anglais, prisonniers ou déserteurs devenus catholiques et qui se font naturaliser sujets français. Approximativement, des diverses sources indiquées plus haut, la colonie aurait reçu de 3 à 4 000 nouveaux chefs de famille. Il s'ensuit que le gros de la population provient de la haute natalité du noyau initial. Pays producteur d'hommes, plus que tout autre, cet aspect des richesses du Canada a frappé la galissonnière. Dans les hautes classes de la société, chez les nobles et seigneurs, comme chez les autres, habitants ou artisans, la famille nombreuse est restée la règle générale. Un sieur de Repentigny sera l'aîné de 22 garçons. La faute n'en est point aux premières générations si la cote démographique n'a pas davantage monté. Trop souvent, les épidémies ont opéré de funèbres décimations. Les coureurs de bois déciment aussi pour leur part. Autant de jeunes chefs de famille perdu pour les foyers canadiens. Et pour creuser une autre brèche dans les statistiques, il y a l'éparpillement ou la contribution du noyau laurentien à toutes les parties de la Nouvelle-France. Le roi, qui s'oppose à l'agrandissement de l'Empire pour éviter que la population ne s'éparpille, ne se fait pas faute de souhaiter l'envoi de Canadiens à titre de colons ou d'officiers dans les nouveaux postes à l'île Royale, à l'île Saint-Jean, au Détroit, à l'Ouabache, en Louisiane, et même, en dehors du continent, à Saint-Domingue et à la Martinique. Quel jugement porter sur la qualité physique et morale des dernières immigrations? Accordons cette bonne note à l'autorité métropolitaine qu'elle s'est toujours opposée à la déportation des enfants trouvés. Pontchartrain s'y refusa carrément. En 1707, Louis XIV avait déjà fixé à 18 ans et à 4 pieds au moins l'âge et la taille des engagés recrutables. Des plaintes fréquentes s'élèvent contre la mauvaise qualité des militaires envoyés au Canada. Trop petits, trop jeunes, mal formés, impropres au métier de soldat. Ceux-là seuls, néanmoins, nous le savons, ont fait souche, qui était apte au dur métier de défricheur, qui avait même fait lieu sur une terre, ce qui équivaut à un certificat de vigueur physique. Il faut en dire autant des faussonniers, recherchés des habitants, et qui prennent presque tous le chemin des côtes. La valeur morale de ces immigrants serait-elle plus suspecte? On relève maintes plaintes des autorités coloniales, civiles et religieuses. En particulier, une protestation vigoureuse de Mgr de Saint-Vallier contre la venue de libertins ou d'une jeunesse dangereuse. L'esprit mutant, la désertion aux Anglais sévissent à l'état de fléau dans les troupes. Conséquence, selon Boisnois, de la mauvaise qualité de recrues. Le prévôt de la maréchaussée se plaint pour sa part, en 1728, que sa fonction n'a plus rien d'une sinécure. Puis, c'est le gouverneur du temps qu'on entend s'élever fortement contre les familles qui font déporter leurs fils par lettre de cachet et qui, les laissant sans soutien, les forcent à se faire voleurs pour subsister. Et c'est la galissonnière qui proteste à son tour contre l'immigration de ces mêmes jeunes gens qu'il vaudrait mieux, disait-il, garder en France dans les maisons de force. À l'encontre de ces faits, ne peut-on présumer du soldat qui cherchait à s'établir après avoir trouvé à se marier qu'il n'appartenait pas à la pire espèce? De même, à propos des faussonniers, faut-il tenir pour un grand criminel le violateur d'un monopole ou le chasseur de lapins ou de perdrix sur un domaine prohibé? Au surplus, en 1727, le roi promettait de ne plus envoyer de gens prévenus de crimes, ni de libertins, promesse que renouvelait en 1730 le Conseil de Marine. Enfin, il serait bon de se souvenir que la déportation en France des indésirables n'a jamais cessé d'être en vigueur. À l'époque, point d'année où la colonie ne se débarrasse d'un ou de quelques malfaisants. On peut tenir pour acquis que la population du Canada est restée saine et homogène. Un détail des recensements frappe le statisticien, l'équilibre des sexes. En 1720, 3513 hommes, 3639 femmes. En 1739, 5378 hommes, 6804 femmes, 13330 garçons, 12458 filles. En 1754, 6820 chefs de famille, 6020 femmes. En d'autres années, quelques écarts et même considérables se produisent. La chose paraît imputable à des causes accidentelles, telles que l'exode des garçons vers la course des proies. Rien aussi peu que rien n'est venu altérer le noyau primitif. Soldats, prisonniers, étrangers n'ont été jetés dans le creuset que goutte à goutte, ils se sont fondus dans l'unité. Quelques 60 à 65 000 âmes. C'était loin des 300 000 qu'avaient laissé espérer les calculs de Vauban. En France, où l'on continue à se nourrir d'illusions, les milieux officiels estiment que, de toutes les colonies françaises, le Canada est la mieux peuplée, et ils trouvent à se consoler. Cependant, nous l'avons vu, les clairvoyants ne cachent pas à la cour les conséquences fatales du déséquilibre démographique entre les colonies de l'Amérique du Nord. La métropole, qui paraît ne rien entendre, avait-elle vraiment fait tout ce qu'elle pouvait faire? Comment le croire, lorsqu'on se rappelle qu'après la dure leçon de 1760-1763, et devant la menace d'une nouvelle guerre avec l'Angleterre, Choiseul trouva moyen d'expédier en Guyane 8000 colons. Pour se donner une base d'opération à proximité des îles, le ministre ne lésina ni sur la propagande, ni sur le coût de l'établissement. Ce que l'on avait refusé au Canada, on le fit pour la Guyane, on y jeta des millions et pour aboutir au pire désastre.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française.